Chapitre 5. Paris. Funérailles. Ordinairement, ceux qui pleurent peuvent jouir en paix de leurs larmes. D'autres se chargent de veiller aux derniers soins de la religion. Comme représentant pour la France, le cardinal ministre absent alors, comme le seul ami de la fille de M. de Montmorin et responsable envers sa famille, je fus obligé de présider à tout. Il me fallut désigner le lieu de la sépulture, m'occuper de la profondeur et de la largeur de la fosse, faire délivrer le linceul et donner au menuisier les dimensions du cercueil. Deux religieux veillèrent auprès de ce cercueil, qui devait être porté à Saint-Louis des Français. Un de ses pères était d'Auvergne et né à Montmorin même. Madame de Beaumont avait désiré qu'on l'ensevelît dans une pièce d'étoffe que son frère Auguste, seul échappé de l'échafaud, lui avait envoyée de l'île de France. Cette étoffe n'était point à Rome. On n'en trouva qu'un morceau qu'elle portait partout. Madame Saint-Germain attacha cette zone autour du corps avec une cornaline qui renfermait des cheveux de M. de Montmorin. Les ecclésiastiques français étaient convoqués. La princesse Borghèse prêta le char funèbre de sa famille. Le cardinal Fesch avait laissé l'ordre, en cas d'un accident trop prévu, d'envoyer sa livrée et ses voitures. Le samedi 5 novembre, à 7 heures du soir, à la lueur des torches et au milieu d'une grande foule, passa Madame de Beaumont par le chemin où nous passons tous. Le dimanche 6 novembre, la messe de l'enterrement fut célébrée. Les funérailles eussent été moins françaises à Paris qu'elles ne le furent à Rome. Cette architecture religieuse qui porte dans ses ornements les armes et les inscriptions de notre ancienne patrie. Ces tombeaux où sont inscrits les noms de quelques-unes des races les plus historiques de nos annales. Cette église, sous la protection d'un grand saint, d'un grand roi et d'un grand homme, tout cela ne consolait pas, mais honorait le malheur. Je désirais que le dernier rejeton d'une famille jadis haut placée trouvât, du moins, quelque appui dans mon obscur attachement, et que l'amitié ne lui manquât pas, comme la fortune. La population romaine, accoutumée aux étrangers, leur sert de frères et de sœurs. Madame de Beaumont a laissé, sur ce sol hospitalier aux morts, un pieux souvenir, on se la rappelle encore. J'ai vu Léon XII prier à son tombeau. En 1827, je visitais le monument de celle qui fut l'âme d'une société évanouie. Le bruit de mes pas autour de ce monument muet dans une église solitaire, m'était une admonition. « Je t'aimerai toujours, » dit l'épitaphe grecque, « mais toi, chez les morts, ne bois pas, je t'en prie, à cette coupe qui te ferait oublier tes anciens amis. » Chapitre 6. Paris, 1838. Année de ma vie 1803. Lettre de M. de Fontane, de M. Necker et de Mme de Staël. Si l'on rapportait à l'échelle des événements publics les calamités d'une vie privée, ces calamités devraient à peine occuper un mot dans des mémoires. Qui n'a perdu un ami? Qui ne l'a vu mourir? Qui n'aurait à retracer une pareille scène de deuil? La réflexion est juste. Cependant, personne ne s'est corrigé de raconter ses propres aventures. Sur le vaisseau qui les emporte, les matelots ont une famille à terre, qui les intéresse, et dont ils s'entretiennent mutuellement. Chaque homme renferme en soi un monde à part, étranger aux lois et aux destinées générales des siècles. C'est d'ailleurs une erreur de croire que les révolutions, les accidents renommés, les catastrophes retentissantes, soient les fastes uniques de notre nature. Nous travaillons tous, un à un, à la chaîne de l'histoire commune, et c'est de toutes ces existences individuelles que se compose l'univers humain aux yeux de Dieu. En assemblant des regrets autour des cendres de Madame de Beaumont, je ne fais que déposer sur un tombeau les couronnes qui lui étaient destinées. Lettre de Monsieur de Chênedollé. Vous ne doutez pas, mon cher et malheureux ami, de toute la part que je prends à votre affliction. Ma douleur n'est pas aussi grande que la vôtre parce que cela n'est pas possible. mais je suis bien profondément affligée de cette perte, et elle vient noircir encore cette vie qui, depuis longtemps, n'est plus que de la souffrance pour moi. Ainsi donc passe et s'efface de dessus la terre tout ce qu'il y a de bon, d'aimable et de sensible. Mon pauvre ami, dépêchez-vous de repasser en France. Venez chercher quelque consolation auprès de votre vieux ami. Vous savez si je vous aime. Venez. J'étais dans la plus grande inquiétude sur vous. Il y avait plus de 3 mois que je n'avais reçu de vos nouvelles, et 3 de mes lettres sont restées sans réponse. Les avez-vous reçues ? Madame de Caux a cessé tout à coup de m'écrire il y a 2 mois. Cela m'a causé une peine mortelle, et cependant, je crois n'avoir aucun tort à me reprocher envers elle. Mais quoi qu'elle fasse, elle ne pourra m'ôter l'amitié tendre et respectueuse que je lui ai vouée pour la vie. Fontane et Joubert ont aussi cessé de m'écrire. Ainsi, tout ce que j'aimais semble s'être réuni pour m'oublier à la fois. Ne m'oubliez pas, ô vous, mon bon ami, et que sur cette terre de larmes, il me reste encore un cœur sur lequel je puisse compter. Adieu, je vous embrasse en pleurant. Soyez sûr, mon bon ami, que je sens votre perte comme on doit la sentir. 23 novembre 1803, lettre de M. de Fontane. Je partage tous vos regrets, mon cher ami. Je sens la douleur de votre situation. Mourir si jeune et après avoir survécu à toute sa famille. Mais du moins, cette intéressante et malheureuse femme n'aura pas manqué des secours et des souvenirs de l'amitié. Sa mémoire vivra dans des cœurs dignes d'elle. J'ai fait passer à M. de la Luzerne la touchante relation qui lui était destinée. Le vieux Saint-Germain, domestique de votre ami, s'est chargé de la porter. Ce bon serviteur m'a fait pleurer en me parlant de sa maîtresse. Je lui ai dit qu'il avait un legs de 10 000 francs. Mais il ne s'en est pas occupé un seul moment. S'il était possible de parler d'affaires dans de si lugubres circonstances, je vous dirais qu'il était bien naturel de vous donner au moins l'usufruit d'un bien qui doit passer à des collatéraux éloignés et presque inconnus. Entre parenthèses, l'amitié de M. de Fontane va beaucoup plus loin. Madame de Beaumont m'avait mieux jugé. Elle pensa sans doute que si elle m'eût laissé sa fortune, je ne l'aurais pas acceptée. Note de l'auteur. J'approuve votre conduite. Je connais votre délicatesse. Mais je ne puis avoir pour mon ami le même désintéressement qu'il a pour lui-même. J'avoue que cet oubli m'étonne et m'afflige. Madame de Beaumont, sur son lit de mort, vous a parlé avec l'éloquence du dernier adieu, de l'avenir et de votre destinée. Sa voix doit avoir plus de force que la mienne. Mais vous a-t-elle conseillé de renoncer à 8 ou 10 000 francs d'appointements lorsque votre carrière était débarrassée des premières épines? Pourriez-vous précipiter, mon cher ami, une démarche aussi importante? Vous ne doutez pas du grand plaisir que j'aurai à vous revoir. Si je ne consultais que mon propre bonheur, je vous dirais « venez tout à l'heure ». Mais vos intérêts me sont aussi chers que les miens, et je ne vois pas des ressources assez prochaines pour vous dédommager des avantages que vous perdez volontairement. Je sais que votre talent, votre nom et le travail ne vous laisseront jamais à la merci des premiers besoins, mais je vois là plus de gloire que de fortune. Votre éducation, vos habitudes veulent un peu de dépenses. La renommée ne suffit pas seule aux choses de la vie, et cette misérable science du pot-au-feu est à la tête de toutes les autres quand on veut vivre indépendant et tranquille. J'espère toujours que rien ne vous déterminera à chercher la fortune chez les étrangers. Et, mon ami, soyez sûr qu'après les premières caresses, ils valent encore moins que les compatriotes. Si votre amie mourante a fait toutes ces réflexions, ces derniers moments ont dû être un peu troublés. Mais j'espère qu'au pied de sa tombe, vous trouverez des leçons et des lumières supérieures à toutes celles que les amis qui vous restent pourraient vous donner. Cette aimable femme vous aimait. Elle vous conseillera bien. Sa mémoire et votre cœur vous guideront sûrement. Je ne suis plus en peine si vous les écoutez tous deux. Adieu, mon cher ami, je vous embrasse tendrement. M. Necker m'écrivit la seule lettre que j'ai jamais reçue de lui. J'avais été témoin de la joie de la cour lors du renvoi de ce ministre, dont les honnêtes opinions contribuèrent au renversement de la monarchie. Il avait été collègue de M. de Montmorin. M. Necker allait bientôt mourir au lieu d'où sa lettre était datée. N'ayant pas alors auprès de lui Mme de Staël, il trouva quelques larmes pour l'ami de sa fille. Lettre de M. Necker. Ma fille, monsieur, en se mettant en route pour l'Allemagne, m'a prié d'ouvrir les paquets d'un grand volume qui pourrait lui être adressé afin de juger s'il valait la peine de les lui faire parvenir par la poste. C'est le motif qui m'instruit, avant elle, de la mort de Mme de Beaumont. Je lui ai envoyé, monsieur, votre lettre à Francfort, d'où elle sera probablement transmise plus loin et peut-être à Weimar ou à Berlin. Ne soyez donc pas surpris, monsieur, si vous ne recevez pas la réponse de Mme de Staël aussitôt que vous avez droit de l'attendre. Vous êtes bien sûr, monsieur, de la douleur qu'éprouvera Mme de Staël en apprenant la perte d'une amie dont je lui ai toujours entendu parler avec un profond sentiment. Je m'associe à sa peine, je m'associe à la vôtre, monsieur, et j'ai une part à moi en particulier lorsque je songe au malheureux sort de toute la famille de mon ami, M. de Montmorin. Je vois, monsieur, que vous êtes sur le point de quitter Rome pour retourner en France. Je souhaite que vous preniez votre route par Genève, où je vais passer l'hiver. Je serai très empressé à vous faire les honneurs d'une ville où vous êtes déjà connu de réputation. Mais où ne l'êtes-vous pas, monsieur ? Votre dernier ouvrage, étincelant de beautés incomparables, est entre les mains de tous ceux qui aiment à lire. J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur, les assurances et l'hommage des sentiments les plus distingués. Necker. Copé le 27 novembre 1803. Lettre de Madame de Staël. Francfort, ce 3 décembre 1803. Ah, mon Dieu, my dear Francis, de quelle douleur je suis saisie en recevant votre lettre. Déjà hier, cette affreuse nouvelle était tombée sur moi par les gazettes, et votre déchirant récit vient la graver pour jamais en lettres de sang dans mon cœur. Pouvez-vous me parler d'opinions différentes sur la religion, sur les prêtres? Est-ce qu'il y a deux opinions quand il n'y a qu'un sentiment? Je n'ai lu votre récit qu'à travers les plus douloureuses larmes. My dear Francis, rappelez-vous le temps où vous vous sentiez le plus d'amitié pour moi. N'oubliez pas surtout celui où tout mon cœur était attiré vers vous. Et dites-vous que ces sentiments, plus tendres, plus profonds que jamais, sont au fond de mon âme pour vous. J'aimais, j'admirais le caractère de Madame de Beaumont. Je n'en connais point de plus généreux, de plus reconnaissant, de plus passionnément sensible. Depuis que je suis entré dans le monde, je n'avais jamais cessé d'avoir des rapports avec elle, et je sentais toujours qu'au milieu même de quelque diversité, je tenais à elle par toutes les racines. Mon cher Francis, donnez-moi une place dans votre vie. Je vous admire, je vous aime, j'aimais celle que vous regrettez. Je suis une amie dévouée, je serai pour vous une sœur. Plus que jamais, je dois respecter vos opinions. Mathieu, qui les a été un ange pour moi dans la dernière peine que je viens d'éprouver. Donnez-moi une nouvelle raison de les ménager. Faites que je vous sois utile ou agréable de quelque manière. Vous a-t-on écrit que j'avais été exilée à 40 lieues de Paris? J'ai pris ce moment pour faire le tour de l'Allemagne. Mais, au printemps, je serai revenu à Paris même, si mon exil est fini, ou auprès de Paris, ou à Genève. Faites que, de quelque manière, nous nous réunissions. Est-ce que vous ne sentez pas que mon esprit et mon âme entendent la vôtre? Ne sentez-vous pas en quoi nous nous ressemblons à travers les différences? Monsieur de Humboldt m'avait écrit, il y a quelques jours, une lettre où il me parlait de votre ouvrage avec une admiration qui doit vous flatter dans un homme, et de son mérite et de son opinion. Mais que vais-je vous parler de vos succès dans un tel moment? Cependant, elle les aimait, ces succès. Elle y attachait sa gloire. continuer de rendre illustre celui qu'elle a tant aimé. Adieu, mon cher François, je vous écrirai de Weimar en Saxe. Répondez-moi là, chez messieurs Desport, banquiers, que dans votre récit il y a des mots déchirants. Et cette résolution de garder la pauvre Saint-Germain, vous l'amènerez une fois dans ma maison. Adieu, tendrement, douloureusement, adieu. N. de Staël. Cette lettre empressée, affectueusement rapide, écrite par une femme illustre, me causa un redoublement d'attendrissement. Madame de Beaumont aurait été bien heureuse dans ce moment, si le ciel lui eût permis de renaître. Mais nos attachements, qui se font entendre des morts, n'ont pas le pouvoir de les délivrer. Quand Lazare se leva de la tombe, il avait les pieds et les mains liés avec des bandes, et le visage enveloppé d'un suaire. Or, l'amitié ne saurait dire, comme le Christ à Marthe et à Marie, déliez-le et le laissez aller. Ils sont passés aussi, mes consolateurs, et ils me demandent pour eux les regrets qu'ils donnaient à une autre. Chapitre 7, Paris 1838, année de ma vie 1803 et 1804, première idée de mes mémoires, je suis nommé ministre de France dans le Valais, départ de Rome. J'étais déterminé à quitter cette carrière des affaires où des malheurs d'hommes étaient venus se mêler à la médiocrité du travail et à d'infâmes tracasseries politiques. On n'a pas su ce que c'est que la désolation du cœur quand on n'est point demeuré seul à errer dans les lieux naguère habités d'une personne qui avait agréé votre vie. On la cherche et on ne la trouve plus. Elle vous parle, vous sourit, vous accompagne. Tout ce qu'elle a porté ou touché reproduit son image. Il n'y a entre elle et vous qu'un rideau transparent, mais si lourd que vous ne pouvez le lever. Le souvenir du premier ami qui vous a laissé sur la route est cruel, car si vos jours se sont prolongés, vous avez nécessairement fait d'autres pertes. Ces morts qui se sont suivies se rattachent à la première, et vous pleurez à la fois dans une seule personne toutes celles que vous avez successivement perdues. Tandis que je prenais des arrangements prolongés par l'éloignement de la France, je restais abandonné sur les ruines de Rome. À ma première promenade, les aspects me semblaient changés. Je ne reconnaissais ni les arbres, ni les monuments, ni le ciel. Je m'égarais au milieu des campagnes, le long des arcades, des aqueducs, comme autrefois sous les berceaux des bois du Nouveau Monde. Je rentrais dans la ville éternelle, qui joignait maintenant à tant d'existences passées une vie éteinte de plus. À force de parcourir les solitudes du Tibre, elles se gravèrent si bien dans ma mémoire que je les reproduisis assez correctement dans ma lettre à M. de Fontane. « Si l'étranger est malheureux, disais-je, s'il a mêlé les cendres qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne passera-t-il pas du tombeau de Cecilia Metellia au cercueil d'une femme infortunée ? C'est aussi à Rome que je conçus, pour la première fois, l'idée d'écrire les mémoires de ma vie. J'en trouve quelques lignes jetées au hasard dans lesquelles je déchiffre ce peu de mots. Après avoir erré sur la terre, passé les plus belles années de ma jeunesse loin de mon pays et souffert à peu près tout ce qu'un homme peut souffrir, la faim même, je revins à Paris en 1800. Dans une lettre à M. Joubert, j'esquissai ainsi mon plan. Mon seul bonheur est d'attraper quelques heures pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul apporter de l'adoucissement à mes peines. Ce sont les mémoires de ma vie. Rome y entrera. Ce n'est que comme cela que je puis désormais parler de Rome. Soyez tranquille, ce ne seront point des confessions pénibles pour mes amis. Si je suis quelque chose dans l'avenir, mes amis y auront un nom aussi beau que respectable. Je n'entretiendrai pas non plus la postérité du détail de mes faiblesses. Je ne dirai de moi que ce qui est convenable à ma dignité d'homme et, j'ose le dire, à l'élévation de mon cœur. Il ne faut présenter au monde que ce qui est beau. Ce n'est pas mentir à Dieu que de ne découvrir de sa vie que ce qui peut porter nos pareils à des sentiments nobles et généreux. Ce n'est pas qu'au fond, j'ai rien à cacher. Je n'ai ni fait chasser une servante pour un ruban volé, ni abandonné mon ami mourant dans une rue, ni déshonoré la femme qui m'a recueilli, ni mis mes bâtards aux enfants trouvés. Mais j'ai eu mes faiblesses, mes abattements de cœur. Un gémissement sur moi suffira pour faire comprendre au monde ces misères communes, faites pour être laissées derrière le voile. Que gagnerait la société à la reproduction de ces plaies que l'on retrouve partout? On ne manque pas d'exemples quand on veut triompher de la pauvre nature humaine. Dans ce plan que je me traçais, j'oubliais ma famille, mon enfance, ma jeunesse, mes voyages et mon exil. Ce sont pourtant les récits où je me suis plu davantage. J'avais été comme un heureux esclave. Accoutumé à mettre sa liberté au cep, il ne sait plus que faire de son loisir quand ses entraves sont brisées. Lorsque je me voulais livrer au travail, une figure venait se placer devant moi, et je ne pouvais plus en détacher mes yeux. La religion seule me fixait par sa gravité et par les réflexions d'un ordre supérieur qu'elle me suggérait. Cependant, en m'occupant de la pensée d'écrire mes mémoires, je sentis le prix que les anciens attachaient à la valeur de leur nom. Il y a peut-être une réalité touchante dans cette perpétuité des souvenirs qu'on peut laisser en passant. Peut-être, parmi les grands hommes de l'Antiquité, cette idée d'une vie immortelle chez la race humaine leur tenait-elle lieu de cette immortalité de l'âme, demeurée pour eux un problème. Si la renommée est peu de chose quand elle ne se rapporte qu'à nous, il faut convenir néanmoins que c'est un beau privilège attaché à l'amitié du génie, de donner une existence impérissable à tout ce qu'il a aimé. J'entrepris un commentaire de quelques livres de la Bible, en commençant par la Genèse. Sur ce verset, « Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Donc maintenant, il ne faut pas qu'il porte la main au fruit de vie, qu'il le prenne, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Je remarquai l'ironie formidable du Créateur. « Voici qu'Adam est devenu semblable à l'un de nous, etc. Il ne faut pas que l'homme porte la main au fruit de vie. Pourquoi? Parce qu'il a goûté au fruit de la science et qu'il connaît le bien et le mal? Il est maintenant accablé de maux. Donc il ne faut pas qu'il vive éternellement. Quelle bonté de Dieu que la mort! » Il y a des prières commencées, les unes pour les inquiétudes de l'âme, les autres pour se fortifier contre la prospérité des méchants. Je cherchais à ramener à un centre de repos mes pensées errantes hors de moi. Comme Dieu ne voulait pas finir là ma vie, la réservant à de longues épreuves, les orages qui s'étaient soulevés se calmèrent. Tout à coup, le cardinal ambassadeur changea de manières à mon égard. J'eus une explication avec lui et déclarai ma résolution de me retirer. Il s'y opposa. Il prétendit que ma démission, dans ce moment, aurait l'air d'une disgrâce, que je réjouirais mes ennemis, que le premier consul prendrait de l'humeur, ce qui m'empêcherait d'être tranquille dans les lieux où je voulais me retirer. Il me proposa d'aller passer 15 jours ou un mois à Naples. Dans ce moment même, la Russie me faisait sonder pour savoir si j'accepterais la place de gouverneur d'un grand-duc. Ce serait tout au plus si j'aurais voulu faire à Henri V le sacrifice des dernières années de ma vie. Tandis que je flottais entre 1000 partis, je reçus la nouvelle que le premier consul m'avait nommé ministre dans le Valais. Il s'était d'abord emporté sur des dénonciations, mais revenant à sa raison, il comprit que j'étais de cette race qui n'est bonne que sur un premier plan, qu'il ne fallait me mêler à personne, ou bien que l'on ne tirerait jamais parti de moi. Il n'y avait point de place vacante. Il en créa une, et la choisissant conforme à mon instinct de solitude et d'indépendance, il me plaça dans les Alpes. Il me donna une république catholique avec un monde de torrents. Le Rhône et nos soldats se croiseraient à mes pieds, l'un descendant vers la France, les autres remontant vers l'Italie, le Simplon ouvrant devant moi son audacieux chemin. Le consul devait m'accorder autant de congés que j'en désirerais pour voyager en Italie, et Madame Bacciocchi me faisait mander par Fontane, que la première grande ambassade disponible m'était réservée. J'obtins donc cette première victoire diplomatique sans m'y attendre et sans le vouloir. Il est vrai qu'à la tête de l'État se trouvait une haute intelligence qui ne voulait pas abandonner à des intrigues de bureau une autre intelligence qu'elle sentait trop disposée à se séparer du pouvoir. Cette remarque est d'autant plus vraie que le cardinal Fesch, à qui je rends dans ses mémoires une justice sur laquelle peut-être il ne comptait pas, avait envoyé deux dépêches malveillantes à Paris, presque au moment même que ses manières étaient devenues plus obligeantes, après la mort de Madame de Beaumont. Sa véritable pensée était-elle dans ses conversations, lorsqu'il me permettait d'aller à Naples, ou dans ses missives diplomatiques? Conversations et missives sont de la même date et contradictoires. Il n'a tenu qu'à moi de mettre M. le cardinal d'accord avec lui-même en faisant disparaître les traces des rapports qui me concernaient. Il m'eût suffi de retirer des cartons, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, les élucubrations de l'ambassadeur. Je n'aurais fait que ce qu'a fait M. de Talleyrand au sujet de sa correspondance avec l'empereur. Je n'ai pas cru avoir le droit d'user de ma puissance à mon profit. Si par hasard on recherchait ces documents, on les trouverait à leur place. Que cette manière d'agir soit une duperie, je le veux bien. Mais pour ne pas me faire le mérite d'une vertu que je n'ai pas, il faut qu'on sache que ce respect des correspondances de mes détracteurs tient plus à mon mépris qu'à ma générosité. J'ai vu aussi, dans les archives de l'ambassade à Berlin, des lettres offensantes de M. le marquis de Bonnet à mon égard. Loin de me ménager, je les ferai connaître. M. le cardinal Fesch ne gardait pas plus de retenue avec le pauvre abbé Guillon, l'évêque de Maroc. Il était signalé comme un agent de la Russie. Bonaparte traitait M. l'aîné d'agent de l'Angleterre. C'était là de ces commérages dont ce grand homme avait pris la méchante habitude dans des rapports de police. Mais n'y avait-il rien à dire contre M. Fesch lui-même? Quel cas sa propre famille faisait-elle de lui? Le cardinal de Clermont-Tonnerre était à Rome comme moi en 1803. Que n'écrivait-il point de l'oncle de Napoléon? J'ai les lettres. Au reste, à qui ces contentions, ensevelies depuis 40 ans dans des liasses vermoulues, importent-elles? Des divers acteurs de cette époque, un seul restera, Bonaparte. Nous tous qui prétendons vivre, nous sommes déjà morts. Lit-on le nom de l'insecte à la faible lueur qu'il traîne quelquefois après lui en rampant? Monsieur le cardinal Fesch m'a retrouvé depuis ambassadeur auprès de Léon XII. Il m'a donné des preuves d'estime. De mon côté, j'ai tenu à le prévenir et à l'honorer. Il est d'ailleurs naturel que l'on m'ait jugé avec une sévérité que je ne m'épargne pas. Tout cela est archipassé. Je ne veux pas même reconnaître l'écriture de ceux qui, en 1803, ont servi de secrétaires officiels ou officieux à M. le cardinal Fesch. Je partis pour Naples. Là commença une année sans Madame de Beaumont. Année d'absence que tant d'autres devaient suivre. Je n'ai point revu Naples depuis cette époque, bien qu'en 1827, je fusse à la porte de cette même ville où je me promettais d'aller avec Madame de Chateaubriand. Les orangers étaient couverts de leurs fruits et les myrtes de leurs fleurs. Baies, les Champs-Élysées et la mer étaient des enchantements que je ne pouvais plus dire à personne. J'ai peint la baie de Naples dans les Martyrs. Je montai au Vésuve et descendis dans son cratère. Je me pillais. Je jouais une scène de René. À Pompéi, on me montra un squelette enchaîné et des mots latins estropiés, barbouillés par des soldats sur des murs. Je revins à Rome. Canova m'accorda l'entrée de son atelier tandis qu'il travaillait à une statue de nymphe. Ailleurs, les modèles des marbres du tombeau que j'avais commandé étaient déjà d'une grande expression. J'allai prier sur des cendres à Saint-Louis et je partis pour Paris le 21 janvier 1804, autre jour de malheur. Voici une prodigieuse misère. 35 ans se sont écoulés depuis la date de ces événements. mon chagrin, ne se flattait-il pas, en ces jours lointains, que le lien qui venait de se rompre serait mon dernier lien? Et pourtant que j'ai, vite, non pas oublié, mais remplacé ce qui me fut cher. Ainsi va l'homme de défaillance en défaillance. Lorsqu'il est jeune et qu'il mène devant lui sa vie, une ombre d'excuses lui reste. Mais lorsqu'il s'y attelle et qu'il la traîne péniblement derrière lui, comment l'excuser? L'indigence de notre nature est si profonde que dans nos infirmités volages, pour exprimer nos affections récentes, nous ne pouvons employer que des mots déjà usés par nous dans nos anciens attachements. Il est cependant des paroles qui ne devraient servir qu'une fois. On les profane en les répétant. Nos amitiés trahies et délaissées nous reprochent les nouvelles sociétés où nous sommes engagés. Nos heures s'accusent, notre vie est une perpétuelle rougeur, parce qu'elle est une faute continuelle.